au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
La Méditerranée est une mer terrible, une mer violente, une mer aventureuse. L'une des plus difficiles à naviguer et à traverser de tout temps, encore aujourd'hui. C'est vraiment le monde du tourment, de la violence, de l'impétuosité.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. 1700 migrants au moins sont morts noyés en Méditerranée au cours du seul premier semestre de 2017. Beaucoup d'autres n'ont survécu pour atteindre leur but du sud au nord que grâce à l'action des forces navales de divers pays de l'Union européenne ou de la générosité d'organisations non gouvernementales. La Méditerranée secourable ou mortelle? Tels seront, avec un point d'interrogation, le titre et le thème de cette émission. Elle va nous transporter vers l'époque qu'on est convenu d'appeler moderne, du XVIe au XVIIIe siècle. Ce temps a précédé celui de la colonisation, qui fut marqué par une provisoire asymétrie des pouvoirs de domination aux dépens du Sud, au profit du Nord. Auparavant, le jeu des concurrences militaires, religieuses et commerciales, lorsque le poids de l'Empire ottoman contrebalançait celui des puissances occidentales, ce jeu était dans l'ensemble équilibré parmi un tourbillon de passions et d'intérêts qui méritent d'être restitués. Guillaume Calafat va y pourvoir. Il est maître de conférences à la Sorbonne, à Paris 1, spécialiste de l'histoire sociale de l'espace méditerranéen, des cultures marchandes et maritimes, de la mobilité et des espaces portuaires. Pirates et corsaires, consuls et marchands, matelots et galériens, captifs et esclaves, sans compter un bon nombre de naufragés, tels sont les acteurs qui foisonnent et qui s'affrontent au gré des flots, en donnant aux ambivalences de la Méditerranée, entre bienveillance et âpreté, entre compromis et violence, les couleurs déjà d'une puissante et périlleuse séduction.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives. Et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin, je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes. Les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole. Et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Guillaume Calafa, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
C'était « En Méditerranée » de l'alexandrin Georges Moustaki, une chanson de 1971 qui est datée. On est encore sous le règne des colonels en Grèce et de Franco, Athènes, Barcelone, Franco en Espagne. Et pourtant, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose d'immuable dans cette mer telle qu'il la voit, telle qu'il l'éprouve, telle qu'il la décrit ?
Oui, c'est très sensible lorsqu'on écoute cette chanson. Toutes les permanences qui sont généralement associées à la mer Méditerranée et à ce que les anthropologues, les historiens qualifient parfois de méditerranéisme, c'est-à-dire ces yeux noirs pour ses enfants, ce teint brun, la permanence des oliviers, d'une longue histoire, d'une antériorité aussi de l'histoire méditerranéenne sur toutes les autres, cette matrice aussi de tous les grands monothéismes qui renvoie effectivement à un socle commun, plus ou moins pacifié, immuable ici, mais ce qui est très intéressant dans cette chanson, c'est qu'on voit le contraste extrêmement saisissant, violent, avec ces bombes, avec cette violence qui est aussi une caractéristique permanente de cette Méditerranée. Des bombes, des bombardements.
Des murs aussi.
Des frontières, des agressions, la colonisation évidemment, qui renvoie aussi à ces rapports entre rive nord et rive sud de la Méditerranée. Et bien évidemment, on est frappé généralement quand on étudie la Méditerranée par à la fois une histoire du cosmopolitisme assez pacifiée et heureuse finalement que l'on présente avec tout un thème de la coexistence de différentes religions dans différents espaces, et en même temps, force est de constater aussi des frontières, des migrations forcées, extrêmement violentes, qui font de la Méditerranée un laboratoire de friction, de tension, et en même temps, effectivement, d'une sorte de socle commun qu'il s'agit aussi de révéler dans toutes les périodes historiques, de ce point de vue.
C'est exactement cette ambivalence dont nous allons traiter ce matin, Guillaume Calafa, l'opposition violente, en effet, entre le nord et le sud, mais aussi entre l'est et l'ouest, pendant très longtemps, au début de cette période moderne que nous allons considérer de plus près. C'est l'affrontement entre l'Empire ottoman d'un côté et les empires occidentaux, et notamment l'Empire espagnol, qui frappe, et puis ensuite les choses vont évoluer. Mais c'est ainsi que cela commence.
C'est ainsi que cela commence pour le moderniste, avec, en l'occurrence, un Est très étendu. Puisque si l'on prend les frontières de l'Empire ottoman, qui est justement cette puissance qui émerge véritablement de manière stable, hein, elle émerge préalablement, mais au XVe siècle, on est effectivement frappé par l'immensité de cette entité politique qui s'étend sur trois continents, l'Europe, la Roumélie, comme disent les Turcs, l'Asie, avec effectivement l'Anatolie, mais aussi à partir de 1517, l'Égypte, la Syrie, et donc qui ouvre vers la mer Rouge, et l'Afrique, évidemment, qui nous amène là, dans les confins occidentaux de cet empire ottoman, jusqu'à l'Algérie actuelle.
Avec en face l'empire espagnol, dans toute sa puissance, telle qu'elle a notamment été étudiée par le très grand, le très impérieux historien qu'a été Fernand Braudel, la Méditerranée au temps de Philippe II.
Oui, cette Méditerranée espagnole qui s'étend sur l'Italie, qui rivalise avec un empire qu'il ne faut pas oublier. Certes, il est en voie de contraction à l'époque moderne, c'est Venise, mais il reste malgré tout très présent en Adriatique et est un peu également en Méditerranée orientale.
Très dispersé, alors que l'Empire ottoman est au contraire unifié géographiquement.
Voilà, ce qui en fait un véritable atout. pour justement lutter contre cet empire espagnol divisé, morcelé, avec en plus des adversaires parfois tenaces et audacieux, comme en l'occurrence le Royaume de France, qui coupe cet empire aussi espagnol en deux.
Longtemps en retrait, la France, et puis au milieu de la période que nous considérons, ayant progressivement jeté ses regards et porté son action maritime également en Méditerranée.
Oui, on a affaire à une forme de montée en puissance d'abord des marchands, marseillais en particulier. Marseille joue un rôle très précoce dans les échanges commerciaux, mais aussi dans la politique méditerranéenne. Puis ensuite, il y a véritablement une prise en main au temps de Louis XIII et surtout de Louis XIV d'une politique méditerranéenne de la France qui passe par des galères, des investissements aussi sur ces places méditerranéennes de plus en plus croissants.
Et puis si on se porte en 1815, à la fin de la période que nous considérons ce matin, on trouve un nouvel acteur qui est la Grande-Bretagne, qui notamment grâce à Gibraltar, Malte, impose son effort de domination à son tour et le jeu a changé.
Les Anglais, avant les Britanniques, sont très présents en Méditerranée dès la fin du XVIe siècle, étant appelés par des États italiens, notamment pour commercer du blé. La Levant Company, la compagnie du Levant anglaise, est créée en 1580.
Vous dites avant les Britanniques.
Avant les Britanniques, parce que on parlera des Britanniques après 1707, pour s'en tenir, disons, à cet acte d'union avec les Écossais qui, tout de même, nous oblige à distinguer les Anglais des Britanniques.
Peut-être plus aujourd'hui que jamais.
Plus aujourd'hui que jamais, tout à fait. Et en l'occurrence, on voit ces navires ronds anglais, hollandais également. Les Provinces-Unies sont très présentes en Méditerranée, nouant des relations diplomatiques et commerciales avec l'Empire ottoman de manière précoce, parallèlement à la France et à Venise. Et un moment crucial pour la domination britannique de la Méditerranée, effectivement la prise de Gibraltar, celle de Minorque au début du XVIIIe siècle, qui font de la Grande-Bretagne un acteur méditerranéen à part entière, sachant que une grande partie des troupes britanniques stationnent à Gibraltar et dans des proportions qui sont incommensurablement plus élevées que, par exemple, les troupes britanniques en Inde ou dans les colonies américaines. Et la Méditerranée est une clé de la domination impériale britannique, et ce, extrêmement précocement, au début du XVIIIe siècle.
Aux grandes dames de l'Espagne qui a essayé d'empêcher la Grande-Bretagne d'être ainsi à même de surveiller le passage de la Méditerranée à l'Atlantique.
Le conflit des Espagnols et des Anglais sur Gibraltar est permanent. On l'a vu ressurgir aussi avec une très grande vivacité au moment du Brexit. Et tout au long du XVIIIe siècle, on assiste effectivement à des tentatives espagnoles de reprise de Gibraltar. Sachant que pendant toute l'époque moderne, les Britanniques cherchent un entrepôt, un point d'ancrage en Méditerranée.
Entrepôt, vous entendez commerce plus que puissance militaire.
Entrepôt et place forte. Ils vont le trouver dans le port toscan de Livourne pendant une grande partie du XVIIe siècle. Le port toscan de Livourne était un port ouvert à tous les marchands étrangers, etc. Mais les Anglais, justement, s'y installent très précocement. Ils installent des factoreries, etc. Ils vont s'installer à Smyrne également, à Alexandrie.
Cela étant précisé, je voudrais que nous évoquions les aspects religieux pour commencer. Donc, parfois, on a probablement exagéré l'importance. C'est à certains égards ce que peut évoquer la période contemporaine où les religions viennent habiller des passions et des affrontements politiques. Il n'empêche que ce qui apparaît aujourd'hui à certains comme le prétendu choc de civilisation, il n'est pas complètement artificiel de penser que les acteurs de l'époque, des temps modernes, l'ont eu en tête. Et je voudrais vous faire entendre un très curieux document que j'ignorais, je veux dire, avant de préparer cette émission, qui est une lettre du pape Pie II à Mehmet II, c'est-à-dire du chef de l'Église catholique au sultan, qui s'efforce de lui expliquer que s'il se convertissait au christianisme, tout irait beaucoup mieux. Elle est ici lue par Jean-Luc Debattis dans l'émission Histoire d'eux de Michel Cohol sur France Culture le 16 décembre 2005.
Noble prince, toi qui n'es pas dépourvu de raison et dont l'esprit n'est pas borné, songe à tout ce que nous t'avons dit et ne l'oublie pas. Pense à toi, pense à ton peuple. Cesse d'être incroyant, deviens fidèle, quitte les ténèbres pour suivre la lumière. Tu vois de quel pied ta religion boite, tu vois combien elle fourmille d'erreurs, combien elle s'éloigne de la vérité. Tu vois enfin qu'il n'y a pas de salut en elle, mais avant tout cela, nous t'avons montré que tu ne saurais obtenir auprès des chrétiens la gloire et la puissance auxquelles tu aspires manifestement, surtout parmi les nations d'Europe et d'Occident, tant que tu demeureras fidèle à ta secte. Si tu acceptais de recevoir les sacrements chrétiens, nous t'avons montré que tu pouvais espérer cette puissance et cette gloire. Souviens-toi donc de nos paroles et suis le conseil que nous te donnons de bonne foi. Reçois le baptême et la purification du Saint-Esprit, embrasse le sacro-saint évangile et remets-toi tout entier à lui. Ainsi, tu assureras le salut de ton âme, tu œuvreras au profit du peuple turc, tu pourras réaliser tes espérances, on chantera tes louanges en latin, en grec, en hébreu, en arabe et dans toutes les langues barbares, et aucune époque ne perdra le souvenir de tes exploits. On t'appellera père de la paix et source de quiétude. Les Turcs reconnaîtront en toi le sauveur de leur âme et les chrétiens le défenseur de leur vie. En apprenant cela, les Syriens, les Égyptiens, les Libyens, les Arabes et tous les peuples qui errent loin de l'enclos du Seigneur suivront ton exemple ou seront vaincus sans difficulté par tes armées jointes aux nôtres.
C'est vraiment sérieux, Guillaume Calafa, cette lettre? C'est de la naïveté, il y a de la condescendance. Est-ce qu'elle a été envoyée?
Sans doute pas. En revanche, elle est très révélatrice d'un état des puissances d'Europe occidentale à cette époque-là, et en l'occurrence des états pontificaux comme du pape, un état de crainte très fort. Après la prise de Constantinople de 1453, face à cette fulgurante expansion de Mehmed II, elle est révélatrice aussi d'une légitimité du sultan ottoman. Légitimité dans la mesure où il est le nouvel empereur de Constantinople, celui qui a pris la ville, celui qui se revendique lui-même dans la titulature parfois le Basileus dans les textes grecs, donc qui renvoie aussi à cette légitimité byzantine qui fait que les sultans ottomans vont souvent considérer l'empereur à Vienne, empereur du Saint-Empire romain germanique, comme un usurpateur, comme quelqu'un qui n'est pas le véritable héritier des Romains, puisqu'avec la translation impériale, la capitale est passée de Rome à Constantinople, et celui qui est maître de Constantinople est maître de l'Empire. Et donc, on va voir des successeurs de Mehmed II, comme Soliman le Magnifique, dans des campagnes militaires contre Charles Quint, distribuer des petits tracts imprimés en Hongrie et en Roumélie, justement pour dire « Rassurez-vous, le véritable empereur, y compris des chrétiens et des romains, le véritable Kaiser i Rum, l'empereur des romains, c'est le sultan ottoman. » Et donc cette lettre de Pie II, effectivement qui peut nous sembler, c'est un unicum, hein, on n'en trouve pas d'autres, en l'occurrence des lettres qui proposent comme ça la conversion. Néanmoins, elle est intéressante dans la mesure où il y a cette idée que, également, la conversion du sultan permettrait la conversion universelle de ses sujets. Ce qui est assez intéressant aussi sur la façon dont les entreprises de conversion vont être pensées pour les rapports diplomatiques de l'Église catholique de Rome avec les peuples d'Asie de manière plus générale.
On est là en 1460, quelques décennies plus tard, on voit François Ier décider de traité avec Suleiman le Magnifique, justement, les fameuses capitulations. Là, on est dans un autre état d'esprit, non?
Oui, vous évoquiez la question des divergences religieuses, qui fait que la Méditerranée est un laboratoire diplomatique tout à fait intéressant de ces alliances interconfessionnelles. Je suis content de parler à votre micro pour dire qu'il n'y a pas eu de capitulation en 1535-1536, comme cela est souvent mentionné dans toutes les encyclopédies ou les manuels.
C'est une révélation.
Non, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est un éminent professeur, Gilles Weinstein, au Collège de France, malheureusement décédé, qui soulignait le fait que ce que l'on conserve, le manuscrit de cette capitulation, soi-disant capitulation de 1535 et 1536, est surtout un brouillon.
Pas capitulation au sens actuel, alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas capitulé,
non,
c'est,
pas
ça
du
veut
tout.
Dire un accord.
Ce n'est pas exactement un accord. Le terme turc, c'est anname, ça signifie les engagements écrits du souverain, du sultan. C'est anname, ce sont des concessions gracieuses que le sultan fait à un monarque considéré comme un inférieur. Pourquoi on dit capitulation? Parce que ce sont des chapitres, tout simplement, des capitula, de privilèges accordés à un monarque et à ses sujets. Donc, c'est un signe gracieux du sultan qui marque, dans la titulature même, une véritable supériorité. Lorsqu'on lit justement les brouillons de la première capitulation franco-ottomane, en l'occurrence 1569, un peu plus tard, puisque ce que l'on conserve, c'est un brouillon, une tentative de négociation, etc., mais qui n'a jamais été ratifié par les Ottomans. Lorsqu'on lit la titulature, on voit effectivement généralement des paragraphes entiers qui révèlent cette titulature très puissante du sultan ottoman, maître de Jérusalem, empereur des trois couronnes, etc. Puis ensuite, on a le roi de France qui est un gouverneur d'un état de la puissance de Jésus, très important, mais malgré tout, bien inférieur au sultan ottoman. Et il faut attendre 1699, extrêmement tard, vous voyez, dans la période moderne, pour que les premiers traités entre une puissance, en l'occurrence l'Empire ottoman et les Habsbourg, l'Empire là, mettent à un degré d'équivalence ou d'égalité relative ces deux monarques.
On nous a trompés en parlant des capitulations, je pense à tous ces manuels qui vont devoir être jetés au feu avec quelques chagrins.
Il y a une alliance militaire néanmoins, et c'est de là il faut distinguer les capitulations, les privilèges commerciaux, ce liement réactif des privilèges pour les Français à Alexandrie, etc. Il n'y a pas de capitulation néanmoins. En revanche, il y a une alliance militaire effective entre les armées navales de François Ier en particulier et l'Empire ottoman. Le Kapoudan Pacha, l'amiral ottoman, navigue de conserve avec les navires français pour lutter contre les Espagnols durant les guerres d'Italie. Mais Charles Quint n'est pas en reste. Il s'allie avec l'empereur de Perse, avec Tamaspe Ier, cherche à nouer des alliances pour prendre à revers aussi l'empereur ottoman, puisque le grand rival des Ottomans est bien entendu l'Empire perse.
Cela étant précisé, c'est cet affrontement binaire entre l'Espagne d'un côté et l'Empire espagnol et d'autre part l'Empire ottoman qui domine pendant un certain nombre de décennies la vie dans cette Méditerranée dont nous rappelons aujourd'hui combien elle a été de siècle en siècle traversée de turbulences. Au fond, les affrontements sont permanents même sans déclaration de guerre. Elles s'organisent aussi autour de cette notion que vous allez nous préciser, celle de course, de corso.
Le terme corso est un terme de la lingua franca méditerranéenne, de cette langue commune partagée par les puissances d'Europe occidentale comme dans l'Empire ottoman. On trouve le terme corso pour qualifier un état de guerre latent en mer qui fait que les navires battant bannière ottomane pouvaient capturer des navires jugés infidèles et inversement, les corsaires chrétiens de Malte, de Livourne, les corsaires de Saint Étienne, mais aussi des corsaires savoyards ou mallorquins, eh bien, capturaient les embarcations de l'Empire ottoman, qu'elles soient maghrébines ou grecques. Et on avait donc cet état de guerre endémique qui connaît un apogée des années 1570 jusqu'à la fin du XVIIe siècle à peu près. Cela se tasse un peu au XVIIIe siècle, mais encore lors de la conquête française de 1830 à Alger, eh bien, il y a un certain nombre de captifs chrétiens dans les bagnes d'Alger.
Déjà, on avait tiré sur au XVIIe siècle, deux reprises au moins, la flotte française avait tiré sur Alger.
À trois reprises, tout à fait. 1683, vous avez vu des bombardements extrêmement violents, qui étaient aussi des expérimentations militaires. On expérimentait des armes, une arme extrêmement violente, c'était la galiote à bombes, qui permettait des bombardements à longue distance d'Alger, qui témoignent effectivement des rapports hostiles aussi liés à cette course, à cette présence permanente de la captivité, de l'esclavage. Les Français bombardent de la même façon Gênes, ce qui est intéressant, puisque comme l'on disait que ces alliances diplomatiques étaient parfois interconfessionnelles, que finalement on n'a pas un affrontement de civilisation musulmane contre chrétienne, de la même façon, on voit que les Français pouvaient bombarder exactement de la même manière une puissance chrétienne comme Gênes et une puissance comme Alger.
Il y a tout de même un moment paroxystique qui voit s'affronter le monde ottoman et les musulmans et d'autre part le monde chrétien. C'est la bataille navale de Lépante de 1571 où Venise, autre grande puissance de l'époque, la Sérénissime, est en première ligne et qui voit la défaite du sultan. C'est aussi le moment où Cervantes prétend avoir été capturé. Il a été en réalité, mais à un autre moment. Écoutez cet extrait de Don Quichotte qui concerne cet épisode. Il est lu ici par Roger Blin dans Les Lundis de l'Histoire, le 15 mai 1967.
Je me trouvais à cette célèbre journée de Lépante, avec le rang de capitaine d'infanterie, que j'avais dû plutôt à ma chance qu'à mes mérites. Ce jour-là, si heureux pour la chrétienté, puisqu'il tira toutes les nations de l'erreur où elles étaient que les Turcs fussent invincibles sur mer, jour où fut ébranlé et confondu l'orgueil ottoman, moi seul, parmi tant d'êtres comblés, et les plus comblés étaient encore ceux qui moururent pour leur religion, je fus le seul malheureux. car au lieu de la couronne navale, sur laquelle j'aurais pu compter si j'avais vécu du temps des Romains, je me retrouvais, la nuit qui suivait un si beau jour, les fers aux pieds et aux mains. Voici ce qui était arrivé. Ouchali, roi d'Alger, heureux et intrépide corsaire, avait cerné et pris la galère capitaine de Malte, où il ne restait plus de vivants que 3 chevaliers grièvement blessés. La capitainesse de Jean Andrea, sur laquelle était ma compagnie, accourut pour la secourir. Faisant ce que je devais faire en cette occurrence, je sautai dans la galère ennemie, mais au même instant elle s'écarta de celle qui l'avait attaquée, de sorte que mes soldats ne purent me suivre, et je me trouvai seul au milieu des ennemis. Impossible de résister, ils étaient trop nombreux. Et je me rendis enfin couvert de blessures. Vous avez dû entendre dire qu'Ouchali prit la fuite avec toute son escadre. Ainsi, je demeurai en son pouvoir, seul, triste parmi tant d'hommes joyeux, seul captif pour 15 000 chrétiens, esclaves dans les galères turques qui venaient de recouvrer la liberté. Je fus conduit à Constantinople, où le grand turc Selim, nomma général de la mer, mon maître, parce qu'il s'était bien conduit dans la bataille, et qu'il rapportait comme un gage de sa valeur l'étendard de la religion de Malte. L'année suivante, en 1573, nous apprîmes que Monseigneur Don Juan avait pris Tunis aux Turcs, et qu'il y avait installé Moulay Hamet, ôtant ainsi toute espérance d'y rentrer à Moulay Tamida, le plus cruel et le plus vaillant des musulmans que le monde ait connu. Le grand seigneur fut très sensible à cette perte. C'est pourquoi, avec cette sagacité propre à sa race, il fit la paix avec les Vénitiens, qui la désiraient encore plus que lui. L'année d'après, 1574, il attaqua la Golette et le fort que Don Juan avait laissé près de Tunis, à moitié bâti. Pendant toutes ces rencontres, j'étais à la Chiourme, sans espoir aucun de recouvrer ma liberté, tout au moins par rançon, car j'étais résolu à ne point renseigner mon père sur mon malheur.
Qu'y a-t-il de précisément exact dans ce propos, Guillaume Calafat ?
Alors, la description de Lépante est assez juste, et notamment le passage concernant Ouchali, ce grand amiral d'Alger, roi d'Alger, qui va devenir le grand amiral de la flotte ottomane par la suite. Ouchali était un converti d'origine calabraise, qui avait longtemps été dans les chiourmes d'Alger, puis qui s'était converti, qui était devenu l'un des protégés des principaux amiraux d'Alger.
Et qui chiourme, c'est là où on rame.
La chiourme, c'est là où on rame. Voilà, c'est dans ces galères méditerranéennes, où lorsqu'on est esclave, on est cantonné. Eh bien, Ouchali avait pu justement gravir tous les échelons. De la même façon, ce qui est exact, c'est que Cervantes, lui-même, l'auteur du Quichotte, qui là en chasse donc ce récit d'un captif qui n'est pas Cervantes mais qui lui ressemble beaucoup, eh bien, a été infortuné à Lépante, on l'appelait l'infortuné de Lépante également, ou le manchot de Lépante, parce qu'il avait perdu l'usage d'une main. Lors de cette victoire célébrée, glorieuse, dont on retrouve des oripeaux dans la plupart des églises espagnoles ou italiennes encore aujourd'hui.
Des oripeaux, c'est-à-dire des bannières turques,
des bouts d'éperon de navires ottomans. Lorsque, par exemple, l'on visite l'église des Chevaliers de Saint-Étienne à Pise, on voit des restes de la bataille de Lépante, des fanions turcs, etc. C'est tout à fait frappant, des chaînes.
Il faut mesurer quelle était l'importance des forces en présence. C'est Brodel qui, dans le livre que nous citions, dit qu'au moment de Lépante, il y avait en Méditerranée entre 500 et 600 galères, tant chrétiennes que musulmanes, c'est-à-dire de 150 000 à 200 000 hommes.
Oui, c'est absolument énorme.
Entre rameurs, marins et soldats, il précisait que la guerre des escadres, c'était de très grandes mobilisations d'argent et d'hommes.
Oui, au point que d'ailleurs l'Empire ottoman comme l'Empire espagnol s'épuisent dans ces guerres qui ne se terminent pas à Lépante et qui témoignent, malgré une défaite terrible de l'Empire ottoman, une défaite navale considérable, de la capacité de l'Empire ottoman à reconstruire des navires dans un temps record, puisque Lépante a finalement des conséquences militaires relativement faibles, puisque l'Empire ottoman prend non seulement Chypre, mais aussi Tunis en 1573 et 1574. Autrement dit, ce n'est pas le coup d'arrêt qu'une historiographie édifiante de la puissance espagnole et vénitienne a longtemps pointé. C'est plutôt justement un moment assez symbolique d'une alliance chrétienne qui se fissure très rapidement. Les Espagnols ne font pas trop confiance aux Vénitiens, les pontificaux jouent également un jeu différent, et donc on voit aussi ces divisions à l'intérieur de cette cette ligue catholique apparaître extrêmement tôt. Donc il y a des éléments très précis dans ce texte du captif de Cervantes qui renvoient aussi à des réalités méditerranéennes, c'est-à-dire l'esclavage des prisonniers qui servent sur les chourmes dans les navires. Et d'ailleurs, le captif décrit ensuite les différentes batailles qui opposent les Ottomans aux Espagnols pendant cette longue guerre qui s'achève véritablement dans les années 1590 sous une forme justement de guerre d'escadre. C'est ensuite qu'apparaît plutôt le corso, justement cette guerre de forme supplétive de la guerre, comme l'appelait Brodel, c'est-à-dire une guerre de petits armateurs avec des navires armés par des entrepreneurs privés de la violence.
Le même Cervantes, dans un autre passage, évoque Saavedra, c'est lui en réalité, Saavedra des Cervantes. Seul un soldat espagnol, un certain Saavedra, réussit à s'en tirer, bien qu'il eût fait, pour recouvrer la liberté, des choses dont les Turcs conserveront longtemps le souvenir. Jamais Hassan ne le fouetta, ne le punit, ne lui adressa une mauvaise parole. Pour le moindre de ses actes, nous redoutions tous qu'il fût empalé et lui-même s'y attendit plus d'une fois. Si j'en avais le loisir, je vous décrirais les prouesses de ce soldat. Il y aurait matière à vous distraire et à vous étonner beaucoup plus qu'avec mon histoire. C'est un jeu littéraire.
Oui, dans ce récit enchâssé du captif au sein de, donc du Quichotte, Cervantes auteur décrit ce qui lui est arrivé, en embellissant tout de même un petit peu son rôle, mais en 1575, il est capturé par un grand marin d'Alger, Arnaud Mamit, un converti d'origine albanaise, qui l'amène dans le bagne d'Alger, où Cervantes, contrevenant aux usages des captifs qui consistaient plutôt à se faire discret, à essayer de ne pas se montrer comme un grand hidalgo riche, etc., puisqu'il fallait être racheté. Ensuite, il y avait une rançon pour racheter ces personnes-là. Et bien, Cervantes contrevient à tout cela. Il dit qu'il est très important et en plus, tente plusieurs fois de s'évader, suscitant d'ailleurs une forme d'interrogation chez les historiens, parce que ces tentatives d'évasion sont avérées à cinq reprises, de fait. Pourquoi n'a-t-il pas été puni? La réponse est assez simple. C'est un captif d'une grande valeur. C'est un hidalgo d'assez modeste fortune, en vérité. Mais il pouvait laisser espérer à ses maîtres une rançon considérable.
Comment est-ce que ça fonctionnait, cette économie de la rançon? Ça nous intéresse évidemment sous la lumière d'aujourd'hui, où nous voyons bien prospérer les recherches de rançon, où quand des Français sont prisonniers, on ne verse pas de rançon, mais on en verse probablement quand même.
C'est une dimension très importante de l'économie méditerranéenne, en particulier de la première modernité, c'est-à-dire des 16e et 17e siècles, parce que les corsaires pouvaient soit faire des razzias sur les petites sociétés littorales, les petits ports, etc., et réclamer des rançons directes auprès des instances politiques du coin, essayer voilà d'obtenir cela. La plupart du temps aussi, les captifs étaient ramenés dans des bagnes d'armateurs privés ou des bagnes publiques. De part et d'autre, à nouveau, de la Méditerranée, il y avait des captifs chrétiens en terre d'islam et des captifs musulmans en terre chrétienne.
Chacun ses esclaves.
Chacun ses captifs. Alors le terme est important parce que ces captifs pouvaient espérer recouvrer la liberté s'ils étaient rachetés, justement. Alors il y avait des échanges de prisonniers, échanges non monétaires, mais il y avait aussi, bien sûr, des systèmes de rançon qui étaient extrêmement bien organisés, avec des instances d'intermédiaires de rachat qui étaient soit des ordres rédempteurs chrétiens, soit des privés, des marchands. Et ces marchands se servaient beaucoup de cette intermédiation pour le commerce des captifs qui leur permettait de commercer autre chose. Lorsque on faisait œuvre pieuse en rachetant des captifs, on avait des licences qui permettaient de commercer avec l'infidèle et de commercer généralement des produits qui pouvaient être prohibés, du bois, du fer, des armes, etc. Et donc, on voit ce mécanisme de rançon, en vérité, organiser les relations commerciales d'une grande partie des ports et des places de commerce européennes avec l'Afrique du Nord ottomane et le Levant ottoman.
Vous avez sûrement observé, Guillaume Calafat, que tout récemment, 26 chasseurs de faucons qataris qui avaient malencontreusement débordé au-delà d'une frontière vers une zone chiite au sud de l'Iran ont été capturés et rachetés, semble-t-il, par le Qatar, très très cher.
Oui, cette économie d'otages, de prisonniers à rançonner et une dimension constitutive des conflits armés sur différentes zones. La Méditerranée, pour cela, n'est pas une zone spécifique ou particulière. Peut-être dans l'intensité, en revanche, de ce phénomène d'économie d'otages, on voit effectivement qu'elle organise, qu'elle structure véritablement les échanges et les relations diplomatiques entre États également, puisque généralement les traités de paix et de commerce, les capitulations aussi, mentionnent très directement les modalités de la rançon. La question justement de la paix est généralement manifestée par un échange de prisonniers maintenu qui permet aussi d'expliquer des phénomènes de réciprocité, de coprésence en Méditerranée.
Tout ça est très, très codifié, semble-t-il, y compris toute une réflexion avec l'émergence des juristes sur le plateau continental, sur les zones territoriales qui devraient être réservé aux navires du pays concerné.
Oui, vous évoquiez dans une émission récente avec Renaud Morieux la Manche. La Méditerranée suscite le même type d'interrogation, c'est-à-dire jusqu'où s'étend la puissance du souverain, comment organiser justement la capture en mer, où est-ce que la capture est-elle légale, où est-ce qu'elle est illégale, comment également trouver des places susceptibles d'organiser ces échanges de prisonniers. Comment organiser de manière plus générale les modalités d'échanges commerciaux eh bien, ce sont des questions qui intéressent les juristes du droit des gens européens.
Grotius et d'autres.
Grotius et d'autres réfléchissent aussi sur la légitimité des États à nouer des relations commerciales et diplomatiques avec l'infidèle, ottoman, en Afrique du Nord. On réfléchit justement au statut juridique de ces capitulations ottomanes octroyées à des souverains européens, comme on réfléchit aux traités de paix et de commerce qui se multiplient à partir du début du XVIIe siècle, entre les puissances d'Europe occidentale, essentiellement la France, les Provinces-Unies et l'Angleterre, avec Alger, Tunis, Tripoli de Libye, et également avec le Maroc, qui est indépendant du sultan ottoman.
J'inscris en effet cette émission dans le même cadre que celle sur la Manche, c'est-à-dire ces mers dont on ne sait jamais à coup sûr, si elles sont le lieu d'affrontements et par conséquent une sorte de frontière, une rupture, au contraire, si c'est l'espace à l'intérieur duquel on va se rencontrer, commercer et finalement, plus ou moins secrètement, s'entendre. Et quand Chateaubriand vient en pèlerinage sur son bateau vers Jérusalem, on n'a pas le sentiment que ce navire est menacé par des attaques des infidèles. Écoutez-le raconter, c'est un extrait de son fameux itinéraire de Paris à Jérusalem, raconter ce moment-là, c'est une lecture par Stéphanie Duncan dans son émission « Partir avec » sur France Inter le 24 décembre de l'an de grâce 2010.
Nous levâmes l'ancre à 4 heures du soir. Nous déployâmes la voile au vent du nord et nous voguâmes vers Jérusalem sous la bannière de la croix qui flottait au mât de notre vaisseau. Nous étions sur le vaisseau à peu près 200 passagers, femmes, enfants et vieillards. On voyait autant de nattes rangées des deux côtés de l'entrepont. Chaque pèlerin avait suspendu à son chevet son bourdon, son chapelet et une petite croix. Chacun faisait son ménage à volonté. Les femmes soignaient leurs enfants, les hommes fumaient ou préparaient le dîner, les papas causaient ensemble. On entendait de tous côtés le son des mandolines, des violons et des lyres. On chantait, on dansait, on riait, on criait. Tout le monde était dans la joie. On me disait « Jérusalem » en me montrant le midi. Et je répondais « Jérusalem ». Enfin, sans la peur de la mer, nous eussions été les plus heureuses gens du monde. Mais au moindre vent, les matelots pliaient les voiles. Les pèlerins criaient « Christos, Kyrie eleison ». L'orage passé, nous reprenions notre audace.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ce navire de Chateaubriand ne paraît pas menacé par les navires musulmans ou turcs?
À l'époque de Chateaubriand, beaucoup moins, évidemment, et en particulier la Méditerranée orientale, à partir du XVIIIe siècle, était moins confrontée à ces questions de course. Quoique, dans les années 1730-1740, on voit tout de même des corsaires chrétiens aller chasser des bateaux de pèlerins, justement, qui amenaient ces pèlerins marocains, algériens, tunisiens, jusqu'à Alexandrie, pour ensuite descendre vers la Mecque et Médine.
Plus récemment, ces prises de rançon ont été surtout le fait de la Corne de l'Afrique. Afrique.
Oui, oui, c'est un phénomène qui est caractéristique, qu'on voit même dans Tintin, d'ailleurs, me semble-t-il, donc Canstock, c'est cette question aussi d'un esclavage lié aussi au pèlerinage.
Tintin les libère, naturellement.
Tintin les libère, évidemment. Donc ces multiplicités d'itinéraires pèlerins qui là nous renvoient à la chanson de Moustaki, c'est-à-dire la Méditerranée comme berceau des grandes religions, et qui font de ces passagers les témoins, généralement, de ces prises corsaires, de ce risque de la mer. On a toujours peur de la mer, et là on voit que les passagers du bateau de Chateaubriand ont peur de la mer, de la mort, de la capture corsaire, du naufrage, car la Méditerranée est une mer violente, dangereuse, et elle est faite d'écueils. Il n'y a pas que les hommes qui menacent bien sûr ces passagers, il y a aussi la mer elle-même.
Plus dangereuse en fait que l'océan Atlantique, j'observe en passant que vous avez évoqué Coq en Stock, mais pas Rackham le Rouge.
Oui, Rackham le Rouge est un pirate. On en trouve en Méditerranée, on en trouve au nord, en particulier de l'Adriatique, les fameux uscoques croates qui attaquaient les navires vénitiens et les navires pontificaux. Mais on trouve aussi des pirates en Grèce à la fin du XVIIe siècle, lorsque des conflits se terminaient, des corsaires démobilisés, eh bien, passaient dans l'illégalité lorsqu'ils voulaient maintenir leur activité, ils devenaient pirates. Donc des ennemis du genre humain, des ennemis de tous, ils attaquaient n'importe quel navire, qu'il soit chrétien, musulman, qu'il appartienne à telle ou telle nation. Donc on trouve de la piraterie, au même titre que dans les Caraïbes ou dans l'océan Indien près de Madagascar, en Méditerranée
comme
aussi,
aujourd'hui,
simultanément. Et aujourd'hui, encore aussi en mer de Chine ou notamment dans la Corne de l'Afrique.
Rackham le Rouge est dans l'Atlantique.
Rackham le Rouge est dans les Caraïbes. C'est une forme de piraterie qui est assez connue, ou mieux connue que la piraterie méditerranée, mais elle est simultanée. On trouve des petites républiques pirates également qui naissent de manière très temporaire, hein, mais dans quelques îles des Cyclades, justement, parce que les îles des Cyclades étaient très touchées par cette course et cette piraterie endémique.
Oui, si on reste dans la Méditerranée, il faut bien distinguer la course, les corsaires d'un côté et les pirates de l'autre. Et réfléchir à la notion d'esclave, certains historiens américains ont fait un rapprochement dont vous nous dites dans vos écrits qu'il est indu, qu'il est caricatural entre l'esclavage de la traite triangulaire et l'esclavage de la Méditerranée dans la période que nous considérons ce matin, c'est-à-dire la période moderne dans notre mer Méditerranée.
Oui, je ne veux pas du tout minorer les difficultés humaines liées à l'esclavage et à la captivité en Méditerranée qui pouvaient susciter des tragédies très importantes. Néanmoins, lorsqu'on est par exemple esclave puis captif ou captif puis esclave dans l'espace ottoman, en particulier des possibilités d'ascension sociale considérables qui n'ont rien à voir avec l'économie de plantation et la traite négrière dans l'Atlantique. Prenons quelques exemples. Je pense à certains convertis, esclaves convertis qui deviennent des mamelouks, des protégés, des serviteurs de maîtres importants au sein des provinces ottomanes du Maghreb et qui, au XVIIe siècle, en viennent à diriger ces mêmes provinces. C'est-à-dire, on a du mal à imaginer un esclave dans les plantations devenir gouverneur de Saint-Domingue. En revanche, un esclave en Méditerranée, une fois la conversion faite, une fois ses compétences mises en valeur, pouvait diriger une province ottomane, ce qui est le cas, par exemple, d'Oustad Mourad à Tunis dans les années 1630-1640, de Mourad Bey, d'origine corse, qui crée une véritable dynastie en Tunisie au XVIIe siècle. Et donc, cette notion d'esclavage, vous voyez ici, est assez impropre pour qualifier des systèmes de dépendance qui sont beaucoup plus complexes. Il y a des esclaves en Méditerranée, dans les chiourmes des galères, etc. Il y a une violence liée à cela. Mais, à nouveau, ces esclaves pouvaient aussi servir dans des foyers domestiques et espérer retourner mourir dans leur terre d'origine. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes conditions et la comparaison me semble en partie trompeuse.
Et l'idée de rapprocher avec les conversions des malheureux Français qui sont partis chez Daesh serait également indue. On imagine mal qu'ils puissent grimper dans l'échelle sociale de l'État islamique.
Alors, c'est un phénomène qui a suscité cette conversion des chrétiens à l'islam au XVIe et au XVIIe siècle, une peur très importante dans les milieux ecclésiastiques et politiques également, particulièrement en Espagne et en Italie. On craignait ce que l'on appelait les renégats, ces reniés qui avaient trahi non seulement la foi catholique, mais trahi aussi l'instance politique dans laquelle ils évoluaient. Et donc, on a toute une littérature qui a longtemps été lue au premier degré, justement avec l'idée d'un ressentiment de ces renégats qui allaient se venger, qui allaient trahir leurs frères, etc.
Une littérature pieuse toujours.
Une littérature pieuse qui généralement visait à obtenir des fonds pour aller racheter des captifs, fonds qui étaient eux-mêmes critiqués par les marchands qui estimaient que ces rédempteurs de captifs faisaient monter les prix de la rançon. Donc on a des tensions aussi au sein de ces milieux rédempteurs qui s'observent de manière nette.
C'est quasiment capitaliste la montée des rançons, effectivement. Il y a tout un...
En tout cas,
analyser l'évolution des prix de façon très, très concrète comme des choses qu'on vendrait.
Tout à fait. Et ça, c'est une vraie question de l'époque moderne. C'est à partir du moment... Enfin, on essaie de s'interroger sur le moment où on commence à considérer ces esclaves et ces captifs non plus comme des choses, mais comme des personnes humaines. Ce qui renseigne aussi sur l'histoire du droit naturel, des droits humains, de l'émergence de conceptions justement plus proches des droits de l'homme tels qu'on les connaît, que ce qui était auparavant maintenu, c'est-à-dire l'idée que les esclaves sont des choses, etc. La Méditerranée est un de ces laboratoires, justement.
Il y a d'ailleurs des cas de demande de rançon immédiate, puisqu'on va sur les plages et on négocie directement ce rachat, ou même sur des barques avec les proches des otages. On le voit d'ailleurs dans l'Avare de Molière, ce qui diminue le nombre de transactions et permet de convertir directement le butin humain en monnaie ou en bien. J'observe qu'au Maghreb, dans l'esclave espagnol de Melilla, qui est tragiquement célèbre de nos jours pour l'immense barrière qui a été élevée face aux migrants, se dresse toujours une torée de la alafia. Alafia, c'est la grâce.
C'est le pardon, la grâce, c'est ce moment aussi. C'est un lieu et un moment où on négocie justement la rançon directement.
La menace endémique des razzias a vraiment laissé des traces dans l'architecture, dans la toponymie méditerranéenne.
Tout à fait. Il suffit de penser aux tours génoises en Corse, par exemple, qui se retrouvent partout sur le littoral corse encore aujourd'hui, dont on voit les vestiges, et qui marquent cette peur de la razzia, cette peur de l'arrivée des navires turcs et ottomans. On dit d'ailleurs encore en Italie, aujourd'hui, mamma i turchi. Maman, attention, voilà les Turcs. C'est pour signaler la stupéfaction, la sidération et la peur de manière générale.
Encore aujourd'hui. Oui.
Encore aujourd'hui, parce qu'il faut s'imaginer que tout de même, en 1480, Mehmed II pousse ses troupes jusqu'à Otrante, à peu près 350-400 km de Rome, et saccage la ville, etc., au sud de l'Italie, au sud des Pouilles. Souvenons-nous aussi que les Turcs de Barberousse, du roi d'Alger devenu amiral de la flotte ottomane, bombardent en 1543, bombardent Nice, hivernent ensuite à Toulon. La ville de Toulon est évacuée et 22 000 Turcs hivernent à Toulon, hébergés donc par le roi de France Soliman, suscitant évidemment l'opprobre des Vénitiens, des Espagnols, qui jugent que cette alliance impie devient trop visible et honteuse pour le roi de France.
Comme toujours, il est intéressant de regarder ces choses sous l'angle des langages parlés, de même qu'on parlait à l'époque hellénistique une sorte de grec plus ou moins abattardi, de même qu'aujourd'hui un anglais également abattardi, un anglais d'aéroport sert à se comprendre tout autour de la Méditerranée. À l'époque, il y a une lingua franca qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Et avant de s'y attarder, on peut peut-être en trouver la trace dans le bourgeois gentilhomme. J'évoquais l'avare, voici le bourgeois gentilhomme où le malheureux se voit proposer d'apprendre la langue. Le bourgeois gentilhomme, ici orchestré par Hugo Rennes, avec la symphonie du marais.
Dice turque, vistar quista, anabattista, anabattista,
yoc,
sui grista,
yoc,
coffita,
yoc,
usita, morista, fronista,
yoc, yoc, yoc,
yoc, yoc, yoc, star pagana,
yoc,
luterana,
yoc,
puritana,
yoc,
bramina, muffina, surina,
yoc, yoc, yoc,
yoc, yoc, yoc, mahometana, mahometana,
hey, bala, hey, bala, hey, bala, 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 hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala,
como chiamara, como chiamara,
giordina, giordina,
giordina,
giordina,
giordina, giordina, giordina,
giordina, giordina, giordina.
Doudina, yok, 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 vous pouvez nous traduire, Guillaume Calafa?
Ouais, c'est Giordina, c'est Jourdain, c'est Monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme, et yok, c'est une négation qui renvoie à cette lingua franca, là, d'emprunt ottoman, qui jouait un rôle très important dans la diplomatie ou également dans les foyers en Afrique du Nord. Jocelyne Daria a écrit un livre entier sur cette langue qui était employée pour négocier, pour également proposer un certain nombre de transactions entre musulmans et chrétiens. Alors ça ressemble à de l'italien corrompu.
Molière et Lully se sont fait renseigner là-dessus, semble-t-il, par un consul.
Tout à fait, par un célèbre consul, qui est célèbre parce qu'il a laissé d'importants mémoires en 5 volumes sur la Méditerranée. Il a été consul à Saïda, également à Alger.
Les consuls jouent un grand rôle et souvent font commerce aussi en dehors de l'action diplomatique.
Tout à fait. Et ce consul d'Arvieux, en l'occurrence, est un des principaux dans la mesure où il a aussi un cursus honorum marchand et consul assez caractéristique de ce que les Marseillais faisaient à cette époque-là. Et d'Arvieux est un bon connaisseur des langues. C'est un orientaliste. Il maîtrise l'arabe, le turc, etc. et renseigne la cour de France, Lully et Molière plus généralement, à la fois sur les manières de se vêtir à la turque, sur ces turqueries qui étaient à la mode à la cour de Louis XIV, mais aussi voilà sur la langue et sur cette lingua franca intéressante dans la mesure où elle propose à la fois des infinitifs à l'italienne, mais aussi des mots d'emprunt à l'espagnol, au portugais, à l'arabe et au turc. Et donc c'est ce brassage, ce métissage des langues méditerranéennes qui est ici représenté, raillé un petit peu par Molière et Lully, mais pour aussi signaler cette réalité méditerranéenne qui est intéressante, parce qu'on trouve par exemple dans les correspondances consulaires, dans les lettres diplomatiques, la mention de négociations en franco ou en langue franque.
Je voudrais que nous terminions cette conversation, Guillaume Calafat, sur la Méditerranée, à la fois secourable et mortelle à l'époque moderne, en évoquant les naufrages, qui sont toujours une menace, bien sûr, et qui sont une menace en particulier contemporaine pour les malheureux qui s'efforcent de franchir du sud au nord la Méditerranée pour arriver à Lampedusa ou ailleurs. Je ne pouvais pas faire l'économie d'au moins un témoignage, celui d'une érythréenne en l'occurrence dans l'émission Chia Ragazzi de France Inter le 1er août 2009. Il s'agit de Lampedusa.
Je m'appelle Adiam, je viens d'Érythrée, en Afrique. Je suis arrivée en Italie en 2003 par la mer, en barque. Parce que notre gouvernement était une dictature et il y avait la guerre aussi, alors j'ai fui la guerre. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver en Italie. J'ai dû traverser le Soudan, le désert, la Libye, puis la mer. Mais le voyage entre l'Érythrée et l'Italie a duré 6 mois. Alors, si tu as de la chance, tu arrives en Italie. Sinon, tu meurs en route.
C'était numéroso.
Vous étiez nombreux dans la barque.
Il y a eu beaucoup de morts, oui, beaucoup de morts. C'était dur, on était entassés. Quand on est arrivé au large de la Tunisie, il y a eu une tempête.
La barca.
La barque a chaviré. On a crié à l'aide, à l'aide. On a brûlé nos t-shirts. C'était la nuit. Un bateau tunisien est arrivé et nous a sauvés. Par chance, je ne suis pas morte, mais beaucoup d'autres, oui.
Dans l'époque que nous considérons ce matin, Guillaume Calafat, disons du 15e au 18e siècle, beaucoup de naufrages ont été repérés, beaucoup de voyageurs, de navigateurs ont connu les affres de la mort dans les flots.
Oui, le naufrage était une composante essentielle de la navigation méditerranéenne et on en trouve un très grand nombre répertoriés dans l'Adriatique, en mer Tyrrhénienne. Les coups de vent étaient fréquents aussi et pouvaient donner lieu à des navigations nocturnes extrêmement périlleuses où des naufragés heurtaient des écueils et une grande partie des équipages étaient complètement décimés. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Dans le discours que nous venons d'entendre, ce qui m'a frappé, c'est aussi le mot fortuna qu'utilise cette réfugiée érythréenne. Fortuna qui signifie pour elle la chance. Par chance, nous sommes arrivés jusqu'à Lampedusa. Fortuna, là, il y a une discordance des temps, d'une certaine manière, c'est la fortune de mer, la tempête, le sinistre à l'époque moderne.
Pourquoi discordance des temps ?
Discordance parce que, ici, on voit que la fortuna l'amène à Lampedusa, qu'elle est heureuse d'y arriver, et en même temps, la fortuna, c'est la tempête, le sinistre à l'époque moderne. Ce sinistre était fréquent et révélait les frontières à la fois confessionnelles et politiques de l'espace méditerranéen, parce que selon l'endroit où les naufrages pouvaient eh bien aborder, leur destinée pouvait être absolument différente. On pouvait devenir captif, justement, esclave, si on tombait au mauvais endroit.
À propos de ce hasard, il y a une affaire curieuse, qui est celle des Turcs que vous racontez dans vos écrits, qui sont les malheureux obligés, ils n'avaient pas prévu, de se réfugier en Sicile et qui deviennent l'objet de négociations diplomatiques extraordinairement complexes.
Oui, c'était des pèlerins comme Chateaubriand qui se rendaient à Alexandrie et qui font naufrage en mer de Sicile. Et le roi de Sicile, qui est à l'époque le roi du Piémont, à Turin, estime que ce sont ses esclaves. À partir de là, ça suscite une grande controverse politique et diplomatique parce qu'ils étaient sur un navire français qui était censé les protéger. Et donc là, on voit aussi toute cette longue histoire des alliances franco-ottomanes ressurgir à travers la destinée de ces Turcs assez riches également. Et on voit justement une partie des enfants arriver à la cour de Turin comme esclaves pour agrémenter aussi la cour du duc de Savoie. On en voit certains autres dans les galères arriver à Barcelone et puis se convertir également au catholicisme pour espérer sans doute une destinée meilleure.
Peu à peu, ils échappent aux archives.
Et peu à peu aussi, voilà, on les voit disparaître. C'est difficile de trouver leur nom une fois qu'ils sont convertis également. Et d'une certaine façon, on peut imaginer ce qui serait passé si ces Turcs avaient fait naufrage à Lampedusa. Car Lampedusa était à cette époque-là une île relativement neutralisée, à la fois chrétienne et musulmane. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est que Lampedusa est système et la frontière, et la frontière par excellence, le symbole de l'arrivée en Europe. Ce n'était pas le cas. C'était une plateforme où justement des musulmans comme des chrétiens pouvaient aborder et surtout aller dans une chapelle prier lorsqu'on était catholique, la Vierge de Lampedusa, et un petit hôtel était aussi prévu pour les musulmans. C'était une île partagée d'une certaine façon à l'époque moderne, et donc sa destinée, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ne peut que frapper l'historien de l'époque moderne qui voit ces allées venues de migrations forcées extrêmement fréquentes dans l'histoire méditerranéenne changer la nature même des lieux, changer leur fonction aussi.
Lampedusa étant actuellement effectivement accueillant un grand nombre d'émigrés venus par la mer. On a souvent entendu le maire de Lampedusa expliquer que pour des raisons de générosité chrétienne, il a voulu organiser l'accueil le moins mauvais possible.
Oui, on pense à ce film récent, Foca Mare, qui avait obtenu l'Ours d'Or à Berlin et qui montre aussi cette société de Lampedusa généreuse pour une partie. On voit aussi ces systèmes sanitaires extrêmement impressionnants dans ce film qui renvoient aussi à des réalités méditerranéennes assez fortes parce que les Turcs dont on parlait tout à l'heure qui font naufrage en Sicile sont d'abord placés en quarantaine pour éviter les menaces de peste, car nous n'en avons pas parlé, mais cette Méditerranée est aussi une mer où la peste fait rage, en particulier de manière endémique dans l'Empire ottoman. Et donc,
c'est moins actuel, heureusement.
C'est moins actuel, pas tant que ça, parce que lorsque l'on voit ces naufragés arriver depuis l'Afrique jusqu'au rivage méditerranéen, ils sont d'abord placés dans des zones de confinement, et on voit des médecins, des officiels, des soldats européens, eux, eh bien, en combinaison intégrale pour éviter ces maladies qui sont fréquentes sur ces navires. Et cette peur de la mer, on la lit dans tous les discours des réfugiés actuels. On voit d'ailleurs que la mer est synonyme pour eux de mort, véritablement, et de souvenirs extrêmement violents et puissamment tragiques.
Où les problèmes de santé sont présents dans leur crainte, dans leur effroi ?
Pas pour eux. On voit là plutôt une crainte sanitaire du côté européen. En revanche, c'est la menace d'étouffement, la crainte du naufrage, la peur de la nuit en mer, qui est aussi extrêmement effrayante et qu'on retrouve dans tous les journaux de bord aussi d'Ancien Régime. Ces permanences-là sont assez frappantes pour l'historien que je suis.
Eh bien, nous allons nous quitter, Guillaume Calafat, sur cette note assez sombre, mais on ne peut guère y échapper. La biographie est illustrée par le livre que vous avez traduit de Francesca Trivelato, une historienne américaine qui s'appelle « Corail contre diamant, de la Méditerranée à l'océan Indien au XVIIIe siècle », un ouvrage paru en 2016 au Seuil. Vous nous annoncez, Guillaume Calafat, pour un futur très proche, que nous souhaitons très proche, votre ouvrage de synthèse qui s'appellera « Une mer jalousée » dans la collection Univers historique au Seuil. Jalousée, vous entendez le mot au sens classique du terme, quelqu'un qui est jaloux de son autorité, j'imagine. Et puis, signalons le livre de Jocelyne Daclia, Bernard Vincent et Wolfgang Kaiser, « Les musulmans dans l'histoire de l'Europe », paru chez Albin Michel en 2013. Vous trouverez une bibliographie plus complète, elle est en effet riche, sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Une fois sur deux, je dis podcaster. Samedi prochain, je recevrai Patrick Boucheron pour parler de la littérature prophétique. Comment dans le passé, dans des œuvres littéraires, on a pu évoquer ce qu'a été ensuite l'avenir. Ce sera naturellement autour de Orwell de 1984 que notre conversation s'organisera. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Nathalie Lempereur avec aussi Guillaume Cotte, une émission réalisée pour notre bonheur chaque semaine par Anne Kobilac, avec Théo Gomard à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, avec Hervé Evano et Anne Brulant pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez, comme chaque samedi, retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.